Voici une question dont la réponse nous fera voir le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu aime le peuple d'Israël? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'on a tous besoin d'entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, c'est donc vrai que Dieu est amour. On peut le voir d'une manière particulière ces jours-ci, alors qu'on reçoit tout ce bel enseignement qui provient du livre de Jérémie. Alors voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous aime parce qu'il voit quelque chose de bon en nous? Est-il possible que Dieu abandonne les siens? Est-ce que Dieu aime le peuple d'Israël? Est-ce qu'il fera une nouvelle alliance avec eux un jour? Quand on prie, est-ce qu'on doit dire à Dieu tout ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce que Dieu veut que nous allions tous à lui? Qu'est-ce que le comportement des croyants doit produire chez les non-croyants? Restez avec nous, on est sur le point d'entendre la réponse de Dieu à chacune de nos réponses, et ce, par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Merci Seigneur du fait qu'on peut aller dans ta présence, être certain que tu es là et que tu veux parler à nos cœurs. On te demande de le faire par ta parole aujourd'hui, par la bouche de ton serviteur. Dis-nous tout ce que tu veux nous dire et aide-nous à le retenir et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes pour que tu sois glorifié dans chacune de nos vies. Parle-nous, Seigneur. On veut te dire combien tu es merveilleux, combien on t'aime. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, le prophète Jérémie a dit au peuple en captivité de se construire des maisons et de fonder des foyers, car la captivité babylonienne durera 70 ans. Cependant, bien que Juda traverse les jours les plus sombres de son histoire, un rayon de soleil perce les nuages. Jérémie annonce que Dieu ramènera le peuple dans son pays. Il lui explique que Dieu a des projets de paix pour lui et non de malheur. Il lui dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cela est vrai pour nous aussi aujourd'hui. Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il entend et répond aussi aux prières provenant des cœurs qu'il aime. Nous avons aussi expliqué qu'une prophétie n'est pas le fruit d'une recherche personnelle ou un document rédigé par des hommes qui ont étudié un dossier. Une prophétie est un message que Dieu révèle directement à un prophète afin que celui-ci le transmette au destinataire désigné par Dieu. Nous devons aussi être disposés à nous laisser enseigner par Dieu. Il le fait par sa parole. Nous devons reconnaître que nous ne savons pas tout et accepter que la parole corrige nos préjugés, nos concepts erronés au sujet de Dieu. Finalement, nous avons expliqué que le véritable problème de l'homme était son cœur méchant et que Dieu proposait une solution à cela. Maintenant, les chapitres 30 à 33 sont plus encourageants que les précédents où Jérémie annonçait la captivité. Maintenant, il annonce la libération et le rassemblement du peuple de Dieu. Sédécias, étant le dernier roi de Juda, ressemble à Osée, fils d'Éla, le dernier roi d'Israël. Cependant, Israël, le royaume du Nord, est en captivité depuis longtemps. Présentement, l'armée de Nebuchadnezzar assiège Jérusalem, et elle est là avec l'intention de détruire la ville et le temple. Il est évident que les prophètes qui avaient annoncé la chute de Nebuchadnezzar étaient de faux prophètes. 7 ans auparavant, Anania avait prédit que Babylone tomberait en 2 ans. Pour leur malheur, les habitants de Jérusalem découvrent que Nebuchadnezzar se porte très bien. Jérémie livre maintenant un message d'encouragement à ceux qui sont en captivité. Au chapitre 30, il a parlé du jour du Seigneur qui débute avec la grande tribulation, mais qui est suivi de l'instauration du royaume millénaire et du retour du peuple dans la terre promise. Au chapitre 31 que nous étudions aujourd'hui, Dieu annonce ce qu'il fera. Lisons ensemble Jérémie 31, verset 1. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. » Cette prophétie n'est pas encore accomplie. Le retour des Juifs en Israël n'est pas l'accomplissement de cette prophétie, car ils ne sont pas revenus vers Dieu. Les gens sont retournés dans le pays, mais ils ne se sont pas rassemblés autour de Dieu dans le cadre d'un réveil spirituel. Versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, Dieu aime son peuple, et c'est pour cette raison qu'il rétablira la nation dans le pays. Je crois de tout cœur que Dieu a l'intention de rétablir la nation dans le pays, en son temps, selon son plan et ses objectifs. Comment Dieu peut-il nous aimer? Certaines personnes demandent comment Dieu peut-il aimer un tel peuple? C'est une excellente question, mais élargissons sa portée. Comment Dieu peut-il nous aimer aujourd'hui? Nous lisons dans la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde ». L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Non seulement est-ce que Dieu aime Israël, mais il aime aussi le monde entier. Il nous aime. Nous pouvons facilement pointer un doigt accusateur vers les Juifs, mais Dieu dit à Israël, « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est ce que Dieu affirme, et nous ne pouvons rien y changer. En fait, c'est vers nous que nous devrions pointer un doigt accusateur. Aux yeux de Dieu, nous sommes d'aussi grands pécheurs que les non-croyants. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a été nécessaire pour nous racheter. Ne dites pas au sujet d'un petit nombre de personnes, comment Dieu peut-il les aimer? Mes amis, comment Dieu peut-il nous aimer? Nous devrions être étonnés qu'il en ait aimé un seul d'entre nous. Je t'aime d'un amour éternel. Il est difficile de concevoir l'éternité. Un jour, un enseignant demandait à un jeune garçon combien de temps durerait l'éternité. Il a simplement répondu, « J'imagine qu'elle durera très très longtemps. » Amour. Puisque nous sommes sur le sujet, qu'est-ce que l'amour? Je ne peux que dire une chose sur le sujet. Dieu ne nous aime pas parce qu'il voit quelque chose de bon en nous. Il nous aime à cause de qui il est. C'est en Dieu que se trouve l'explication de son amour pour nous. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Ça, c'est l'amour. Cramer a écrit, « L'amour de Dieu envers nous vient de l'amour. Il n'a pas d'autre cause que lui-même ou une cause extérieure à lui. L'amour de Dieu envers nous réside en Dieu et y demeure toujours. Le Seigneur Jésus, qui est en Dieu, est le centre de cet amour. » Mes amis, Dieu nous aime et je suis en peine d'en expliquer la raison. Je suis abasourdi par l'amour de Dieu. S'il changeait d'idée demain, nous serions perdus pour l'éternité. Cependant, il nous assure que son amour est éternel. Et comme l'a dit le petit garçon, ça dure très très longtemps. Verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu ne laissera personne derrière. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats devant évacuer des zones, à l'approche de l'armée japonaise, ont dû laisser des blessés derrière eux, faute de place sur les bateaux et de temps. Il n'en sera pas ainsi lorsque Dieu rassemblera son peuple. Tous répondront à l'appel. Verset 9. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Dieu a toujours dit qu'il était le Père d'Israël, mais il n'a jamais dit cela d'un individu dans l'Ancien Testament. Il a appelé Moïse et David ses serviteurs. Il emploie le terme « Père » seulement en relation avec la nation d'Israël. Jérémie 31, verset 10. « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Dieu est le berger de son peuple. C'est merveilleux de pouvoir dire ce que Dieu dit sur les ondes de la radio et de le publier sur l'Internet. Nous atteignons toute la francophonie. Bien qu'il ait dispersé son peuple, Dieu l'aime d'un amour éternel. Il a jugé son peuple, mais il le rassemblera de nouveau dans son pays. Dieu aime Israël et il a châtié la nation. C'est un message doux et amer que nous entendons. Nous percevons une note de joie à travers le livre de Jérémie, mais il y en a aussi une très triste. Dieu a dispersé Israël, mais il a aussi dit « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Un berger veille bien sur son troupeau. Poursuivons la lecture de Jérémie 31. Lisons les versets 13 et 14. « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. » Le peuple de Dieu connaîtra le bonheur et la joie. De plus, Dieu pourvoira aux besoins du peuple. Il ne manquera de rien. Cependant, dans l'immédiat, la situation d'Israël était tragique, car la nation a été infidèle à Dieu et s'est rebellée contre lui. Verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Le mot hébreu traduit « recherchera » est « kabab ». Et il signifie « entourer »,« s'éloigner »,« détour »,« contourner »,« tourner »,« passer »,« contour »,« faire le tour »,« envelopper »,« environner »,« se retourner »,« transporter »,« se placer »,« être la cause »,« se retirer »,« se tenir de côté ». Puisque le mot peut avoir le sens d'entourer ou d'envelopper, certains pensent que ce verset réfère à Jésus, l'homme parfait dans le sein de Marie. Cependant, l'interprétation de ce verset est difficile et les érudits ne font pas l'unanimité sur l'interprétation à y donner. Versets 31 à 33. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance comprend le pardon des péchés et un nouveau cœur. Cette nouvelle alliance est différente de celle faite avec Moïse sur le mont Sinaï. Cette alliance sera gravée dans les cœurs et non sur de la pierre. C'est cela la grande différence. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car... » Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tous leurs péchés seront pardonnés. Observez comment Dieu confirme cette nouvelle alliance avec Israël, en lisant les versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. La nouvelle alliance est éternelle. Cette alliance ne sera jamais modifiée ni abrogée. Tout comme nous ne pouvons pas modifier l'orbite des planètes, nous ne pourrons pas modifier cette alliance avec Israël. La nouvelle alliance est éternelle. Au chapitre 32, Jérémie est en prison et Jérusalem est assiégée par Nebuchadnezzar. Cependant, Néhémie achète une terre à Anatote. Jérémie 32, versets 1 et 2. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Notez que Jérémie précise le temps. C'était l'année pendant laquelle Nebuchadnezzar a pénétré dans Jérusalem et qu'il a détruit la ville. C'était une année sombre. Passons au verset 7. Voici, Hanaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Dieu sait tout. Rien de ce qui n'arrive le prend par surprise. Il dit à Jérémie que le fils de son oncle vient lui demander d'acheter son champ. Verset 9. « J'achetais de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesais l'argent. 17 sicles d'argent. » Le marché de l'immobilier devait être complètement mort. Tous auraient aimé pouvoir vendre leurs propriétés qui se trouvaient en territoire conquis par Babylone, mais personne ne voulait acheter un champ dans un territoire sous la domination de l'ennemi. Pourquoi est-ce que Jérémie a accepté de faire une transaction immobilière qui n'était pas à son avantage? Il voulait montrer au peuple qu'il croyait Dieu lorsque celui-ci affirmait que le peuple reviendrait dans le pays. Cependant, Jérémie ne comprenait pas la raison de ce geste. Il a simplement posé la question à Dieu, versets 16 et 17. « Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Jérémie est incapable de répondre à cette question, mais Dieu le peut. Du verset 18 au verset 23, Jérémie rappelle comment Dieu a protégé Israël et pourvu à ses besoins au cours de l'histoire. Cependant, la situation actuelle est extrêmement grave. Versets 24 et 25. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent. Prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Lorsque nous prions, disons à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur. Jérémie n'est pas hypocrite. Il fait confiance à Dieu qui a créé les cieux et la terre, à Dieu qui s'est toujours merveilleusement occupé d'Israël. Cependant, les Chaldéens assiègent la ville et ils sont sur le point de la prendre et pourtant Dieu demande à Jérémie d'acheter un champ. Il a obéi, mais le commandement, d'un point de vue humain, semblait insensé. Il demande donc des explications à Dieu. Mes amis, il n'y a rien de mal à demander des explications à Dieu si nous avons un doute ou si nous avons une question. C'est bien d'en parler à Dieu. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Ne mettez pas un masque pieux comme le font certaines personnes. Ces personnes, tout en affirmant faire confiance à Dieu, se plaignent et exigent des explications comme si Dieu était injuste ou dans l'erreur. Soyons honnêtes comme l'a été Jérémie. Celui-ci a obéi au Seigneur tout en reconnaissant qu'il avait des doutes et il en a parlé à Dieu dans la prière. Dieu répond à la prière de Jérémie dans les versets 26 à 44. Lisons Jérémie 32, versets 26 et 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Dieu commence par établir le fait que rien n'est trop difficile pour lui. Poursuivons la lecture, lisons les versets 36 à 42. Et maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. En son temps, Dieu a livré Israël dans les mains des Chaldéens pour châtier la nation. En son temps, il les rassemblera de nouveau dans leur pays, car il est miséricordieux. C'est ce qu'il promet. Lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous partageons nos sentiments avec lui, il nous console et nous encourage comme il l'a fait pour Jérémie. Mes amis, Dieu veut que vous veniez à lui. Nos actions démontrent notre foi. Elles sont un témoignage plus puissant que nos paroles. Jérémie croyait Dieu et il a acheté le champ du fils de son oncle. L'achat de ce champ démontrait que Jérémie croyait que le peuple reviendrait de la captivité et que la vie reprendrait son cours normal. Lorsque les gens nous voient agir, voient-ils une démonstration de foi? Voient-ils que vous faites confiance à Dieu? Êtes-vous une maison témoin? Une maison témoin est une maison construite par une compagnie qui fait du développement domiciliaire et qui est ouverte au public pour que les acheteurs puissent en apprécier les qualités et décider d'acheter le modèle. Lorsque les gens vous rencontrent, ont-ils le désir d'être transformés selon le modèle de chrétien que vous êtes? L'apôtre Pierre a beaucoup parlé de l'importance d'une bonne conduite. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Citation de 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soit couverte de confusion. 1 Pierre, chapitre 3, verset 16. Une telle conduite est le produit de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et du maintien d'une relation personnelle et intime avec Dieu. Soumettons-nous à l'action du Saint-Esprit dans notre cœur afin que, comme Jérémie, nos actions fassent de nous des maisons témoins. Demandons à Dieu de travailler dans notre cœur et de compléter ses travaux de restauration afin que nous le glorifions. Dieu aime travailler en profondeur. C'est son désir. Accompagnons-le dans son travail. Son travail dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est là qu'il veut accomplir pleinement les désirs et la volonté de son cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Jérémie chapitre 33 jusqu'au chapitre 36. À vous tous, une bonne lecture.
Merci Régent. Tu as parlé de la prière aujourd'hui. Tu as dit que c'était important de tout dire à Dieu quand on prie. Tu as mentionné qu'il n'y avait rien de mal à demander des explications à Dieu si on a un doute ou une question. Tu as même dit que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Mes amis, c'est tellement bon de réaliser cette vérité. Je me rappelle, dès mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, je parlais au Seigneur. À ce moment-là, j'étais tellement émerveillée du cadeau qu'il venait de me donner, c'est-à-dire le pardon de mes péchés, le don gratuit de la vie éternelle, que je ne voulais même pas dormir. Tout ce qui m'intéressait, c'était de lire sa parole et de lui parler. Je lui exprimais tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Je le remerciais sans cesse pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour la vie nouvelle que j'avais en lui, pour la paix qui s'était installée dans mon cœur et pour le fait que je me rendais compte qu'il y avait peu de gens qu'il connaissait intimement. Et lui aussi me parlait. Par sa parole, bien sûr, je dévorais les Saintes Écritures. Et quand j'allais vers mes proches pour leur annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et qu'ils me rejetaient en disant que j'étais folle, je retournais chez moi en pleurant. Et à ces moments-là, j'exprimais ma douleur à Dieu, ma colère de ce que les gens ne voulaient pas de lui. Et je lui demandais de me montrer ce qui n'allait pas. Comment il se faisait que ces gens ne recevaient pas avec joie le plus beau message de tous les temps? Et Dieu me réconfortait par sa parole et par des gens qui avaient plus d'années que moi, plus de vécu avec la parole de Dieu. Après un certain temps, quand j'ai vécu de plus grosses épreuves, il m'est arrivé de bloquer un peu dans mes prières, d'exprimer un peu moins à Dieu ce que j'éprouvais, mais il me soutenait. Et ce temps n'a pas duré longtemps. J'ai appris à crier à Dieu comme David. Il a continué à répondre et à me bénir même au sein de la souffrance. J'aimerais terminer en vous citant les paroles d'un chant que j'aime beaucoup. C'est pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, toi qui es présentement dans le creux de la vague, au sein de la souffrance. Ça va peut-être t'encourager. Ça va comme ceci. C'est bien court. Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé pour moi, trop élevé pour moi. Mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, exprime ta douleur à Dieu. N'aie pas peur, il t'écoute, il t'aime d'un amour tendre et éternel. Demande-lui de te conduire sur le roc. On se sent faible, des fois on a besoin que Jésus nous soutienne, qu'il nous embarque sur ses épaules. Et appuie-toi sur lui. Ce roc inébranlable qu'est le Seigneur Jésus. Il est vraiment là. Il est là pour chacun de ses enfants. Confie-toi en lui. N'aie pas peur. Il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mon frère, ma sœur, ton Dieu est puissant. Et ton Dieu est plein d'amour pour toi.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le, rejoins ces gens qui seront aidés.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.